Bonjour, vous écoutez Le Fil du Fèvre sur Radio FM+. L'enregistrement d'aujourd'hui se passe hors du studio. J'ai une invitée très chère à mon cœur aujourd'hui. Elle s'appelle Kim Swan Brzezinski et habite New York. Nous nous tutoierons à la différence des autres émissions. Bonjour Kim Swan.
Bonjour Lionel.
Alors, est-ce que tu pourrais prendre le temps de te présenter, s'il te plaît?
D'accord. Alors, mon nom de jeune fille, c'est Kim Swan Hoon. Et Kim Swan, ça veut dire le printemps doré parce que je suis née au printemps au Vietnam. Et naturellement, j'ai épousé un Américain. Donc, mon nom maintenant, c'est Kim Swan Brzezinski. Je sais pas comment me présenter, tout simplement.
Ce que tu fais dans la vie?
Tu sais, j'enseigne à l'École des Nations Unies à New York depuis 1970. Donc, ça fait quoi? Ça fait 55 ans. Et donc, j'ai pas besoin de dire mon âge. Les gens peuvent faire le calcul, quoi. Alors,
et t'enseignes-tu à l'École des Nations Unies?
Ils m'ont embauché, je crois, c'était peut-être fin août 1970. Et tout simplement parce que à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est comme mes parents ne me laissaient pas du tout faire des études à l'étranger, étant donné que mon grand-père maternel était un médecin de la médecine chinoise, et un peu comme un chaman à l'époque. Alors quand je suis née sous le signe du cheval. Et il a dit à mes parents, ne la laisse jamais hors de votre vue parce que c'est un cheval sauvage, un cheval mâle. Donc, quand j'ai terminé mes études secondaires, la plupart de mes amis sont partis à l'étranger pour faire des études, comme c'était, disons, la tradition chez les Vietnamiens qui sont plus ou moins aisés. Alors, donc, je suis restée donc, à New York, à Saigon. Et donc, naturellement, à la fin, c'est après toutes les études universitaires, mes parents voulaient que je me marie. Naturellement, là-bas, on n'a pas de choix en tant que femme. Donc, je dis, mais laissez-moi faire au moins un voyage. Donc, ils ont pris un billet de tour du monde. En principe, je devrais juste passer par New York, peut-être pour une semaine. Et je suis arrivée, donc, c'était le soir du 2 août, au milieu de la nuit, donc j'ai rien vu de New York. Le lendemain matin, je suis sortie. Alors, l'hôtel, c'était sur la 42, Lexington et 5e Avenue, je suis sortie. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Alors, j'ai les gens bien habillés, mais plein de monde. Et comme c'était l'hôtel, c'était à côté de la gare, donc, tu vois, tout ce monde qui sortait, j'étais mais vraiment ébahie, impressionnée, venant même du Vietnam et de Saigon à l'époque. Et donc, je suis restée là plusieurs jours. Et c'est juste, et je ne me suis pas rendu compte, seulement plus tard, que je me suis rendu compte, c'est que c'est vraiment le début du mouvement de la libération de la femme. Alors, tu peux imaginer ça. Pour moi, tu sais, venue du Vietnam, et surtout, la place de la femme n'était pas très importante, sauf chez elle, de voir tous ces grands noms, tu vois, Betty Friedan, Gloria
Steinem.
Pour moi, c'est une découverte incroyable. Et surtout, à ce moment-là, tu sais, il y a plein de manifestations des femmes, tout ça. Alors que, naturellement, ça m'a tellement impressionnée. Et à un certain moment, je devrais partir pour la France, après mon voyage à New York. Mais comme... Alors, j'ai décidé... où je voulais rester. Et comme j'avais quand même, ma famille avait quand même certaines connexions, et par ces connexions-là, j'ai rencontré un homme qui s'appelle, comment il s'appelle déjà, je ne me rappelle plus son nom, mais c'était un anchorman de NBC. Alors il m'a dit, mais qu'est-ce que vous savez faire? Je dis, mais je peux enseigner parce que je commençais déjà l'enseignement à Saigon. Alors, il m'a dit donc, il m'a donné des coordonnées d'un homme qui s'appelle Maurice Peset. Et donc, j'ai téléphoné et c'est tout à fait dans dans la tradition de mon école, alors dernière minute, Paris, il y a un prof de français qui a démissionné. Donc j'ai vu Monsieur Peset, tout ça. Alors il m'a dit, mais mademoiselle, avez-vous enseigné avant? Parce que j'avais l'air très jeune à l'époque. Donc on a parlé de tout ça, il m'a dit, laissez-moi vous coordonner, puis on verra. Je suis partie, je suis rentrée à l'hôtel de soir, alors que, tu sais, le réceptionniste m'a dit, mais mademoiselle, il y a voilà, il y a le message de ce monsieur, il faut l'appeler, tout ça. Donc, le message, c'est que je devrais venir donc à l'école le mardi matin, avant 9h. Donc, je suis arrivée, c'était la grande réunion générale de l'école. Et c'est comme ça que j'étais embauchée. Et donc, je commençais à enseigner là, et puis après, les premières années, comme il n'y avait pas de place, comme dans cette école, alors, il y a trois sections, il y a la section primaire, et puis collège, et le lycée. J'étais formée pour enseigner au lycée. Mais comme il n'y avait pas de place, donc je me rappelle pas exactement, mais je crois que j'ai enseigné quand même dans la section française du primaire pendant 1 ou 2 ans, je me rappelle plus. Mais après, j'enseigne au lycée. Et c'est là où je suis restée jusqu'à maintenant, quoi. Je faisais ce qu'ils appellent de théorie de la connaissance, ça veut dire l'épistémologie. Et le français au niveau première et terminale. Et je suis là depuis tout ce temps. Et après la pandémie, alors je me suis dit, il me faut...
Pandémie de 2020, le Covid.
Voilà. Donc je voulais quand même changer pour... vous voyez, ça fait des années que j'ai enseigné au lycée. Et... j'ai décidé quand même de reprendre le collège dans un sens. Et là, je me suis rendu compte que vraiment, j'adore aussi chez les jeunes. Et je dois dire que j'ai eu la chance vraiment de rencontrer des gens extraordinaires pendant mes 55 années à l'école des Nations Unies. Et donc, il y a 10 ans, j'ai rencontré pour la première fois un jeune Français qui est venu à l'école. Et puis, comme il est assis juste en face de moi, tu vois, dans le grand département, on commençait à parler philosophie, musique et mythologie, qui est vraiment ce que j'aime. Et puis, naturellement, quand j'enseigne la théorie de la connaissance, donc on parlait beaucoup. Et ben donc, ce jeune homme-là, c'est Lionel, et puis nous sommes restés amis depuis des années, et puis cette fois-ci, alors que, comme je l'ai pas vu, ça fait quoi, ça fait 2 étés, alors je l'ai appelé, il y a pas longtemps, je lui ai dit, Lionel, j'arrive en France. Alors il m'a dit, vraiment? Alors j'ai dit, oui, voilà, et donc je suis... aujourd'hui à Alès chez sa mère, et puis donc
on fait cet enregistrement. J'ai alors parce que tu as parlé du Vietnam, tu as parlé de ton grand-père, et puis ta découverte donc de New York et puis du mouvement féministe en pleine ébullition en 1970. Puisqu'on est dans le fil du fer et que c'est le fil d'un parcours, d'un chemin, quelle a été ton éducation à Saïgon, en tout cas en tant que jeune fille, et puis qu'est-ce que tu as vu et qu'est-ce que tu es devenue aussi peut-être grâce à New York comme femme?
Oui, tu vois, par exemple, donc j'ai fait toutes mes études en français au Vietnam. J'ai eu, que tu vois, à l'époque c'est le certificat d'études, et puis après le brevet, et puis les 2 bacs. Et après, donc, j'ai tout ça, c'était ce qui est intéressant. Maintenant, quand je regarde les documents, c'était donné par l'éducation nationale française, tu vois. Donc, c'est tout en français. Et puis après, j'ai fait une licence SLS au Vietnam. Et quand je suis arrivée donc à New York, donc, j'ai continué mes études, je fais une maîtrise et un doctorat de littérature. Ce qui m'a vraiment surtout marqué, et peut-être même défini, c'est que en restant, en étant professeur à l'École des Nations Unies, j'ai eu des opportunités extraordinaires que je n'aurais jamais vraiment imaginées. J'ai devant moi des élèves d'un peu partout. Parmi mes collègues, c'est pareil. Mais je crois, au début, j'étais assez, même déjà au Vietnam, j'étais très différente parce que je pense d'une autre façon que les autres, même mes amis. Alors, je me rappelle donc que vers les années 80, je suis devenue beaucoup plus, disons, plus verbale, comme ils disent ça aux États-Unis, je parle beaucoup plus. Donc, je me suis engagée quand même dans les affaires de l'école. À un certain moment donné, j'ai rencontré, mais il y a une femme britannique qui s'appelle Sylvia Gordon. C'était vraiment, pour moi, c'est un mentor et vraiment un modèle extraordinaire de prof. Elle m'a appris d'être meilleur prof, dans ce sens qu'elle m'a appris comment savoir écouter les jeunes et surtout comment faire de sorte que ma profession devienne quelque chose, presque une mission. C'est plus du tout seulement un job, comme ils disent. D'ailleurs, a priori, j'aime les jeunes, mais c'est là où je me suis rendu compte, j'ai une situation exceptionnelle, c'est-à-dire de pouvoir vraiment former, le mot en anglais c'est nurture, les jeunes futurs leaders du monde, parce que ce sont des enfants très privilégiés, des enfants de diplomates. Des fois, je me rappelle une année, j'avais dans ma classe, donc dans mes cinq classes là, j'avais quatre enfants d'ambassadeurs. Donc on sent que vraiment tout ça c'est important. Donc j'ai vu ma profession autre que le travail d'un prof. Et en plus de cela, je me suis engagée dans les affaires de l'école, donc je suis devenue une très militante pour les profs, je suis devenue une présidente du syndicat des profs. Alors là, je me suis vraiment bataillée pour les profs, quoi. Et pendant ces années-là, alors tous les mois, il y avait des réunions avec le Board of Trustees. Alors donc, je me rappelle toujours que je me suis mise avec les 18 membres du board. Et il y avait aussi Kofi Annan, qui était à l'époque le secrétaire général. Et là, je vois comment il manipule le groupe, comment un diplomate fait les choses. C'est extraordinaire. Et je crois que c'est là où j'ai appris plein de choses. Je me suis dit, mais quand je pense une petite jeune femme venue du Vietnam, vraiment d'avoir ces possibilités d'avoir des élèves comme ça, comme je les ai, d'avoir des collègues qui sont extrêmement brillants. Et puis, je me rappelle, quand je pense à mes collègues, je ne peux pas m'empêcher de penser à Sylvia Gordon. Et puis, un autre, c'était un chef de département de sciences qui s'appelle Brian Kahn. Et je me rappelle, avec lui, je discutais surtout de théâtre, parce que c'est quelqu'un qui adore le théâtre. Mais c'est dans la vie, des fois, on ne s'attendait pas du tout aux rencontres comme ça, le long de notre séjour, disons, trajet. Oui, et tu vois, par exemple, toi et moi, il n'y a aucune raison qu'on se rencontre. Toi, tu viens aux Nations Unies juste pour quelques années pour, tu vois, disons, changer d'air peut-être, alors que moi non plus, j'ai jamais pensé que je serais restée tant d'années à l'école. Parce que je me rappelle, c'était juste un voyage autour du monde. J'arrive là, et quand j'étais embauchée, alors j'avais peur de changer d'idée. Alors, le lendemain de mon contrat, j'ai déchiré le billet d'avion, parce que j'avais peur de changer d'idée. Donc, tu vois, Voilà, 55 années aux Nations Unies. Alors, comme je te dis, je me vante un peu là. Alors, il y a peut-être, c'était la fin du mois de février. L'école, ils n'ont jamais eu quelqu'un qui est resté pendant 55 ans, tu vois. Alors, pendant un gala, ils m'ont honoré. Donc, c'était vraiment un honneur extraordinaire. Mais pour moi, l'honneur, ça revient à mes élèves. Parce que comme tu sais bien, c'est extraordinaire, tu sais, la population des élèves et puis des collègues aussi. Et pour moi, c'est une chance inouïe.
Alors, une chance inouïe, mais tu l'as saisie. Et là, comme dans l'émission Le fil du fer, c'est le fer F-A-I-R-E, que tu m'as raconté, ce que tu viens de dire, c'est de déchirer ton billet d'avion pour continuer le tour du monde et retourner à Saigon. Il faut faire aussi le contexte, c'est qu'on est durant la guerre au Vietnam. Tu as connu l'occupation française, il y a eu la guerre, les Américains sur place, et donc ton éducation. Et qu'est-ce qui a fait que dans ton éducation, ta personnalité, tu as décidé de déchirer ce billet?
Tu vois, ce qui se passe, c'est que tu sais, comme toute jeune fille, alors on rêve d'horizons lointains, grandioses, tout ça, mais de pouvoir presque, c'est comme concrétiser ton rêve. Tu vois, comme jeune fille, naturellement, je pense, pour toutes les jeunes filles, on veut pas reconnaître, mais on a quand même des rêves. Et pour moi, le rêve, c'est les voyages un peu partout, de devenir ce que je voulais être. Le problème, c'est que, tu sais, il y a des gens qui ont la chance d'avoir réalisé ce rêve. Et moi, j'ai vécu. Et je vis ma vie. C'est mon rêve, quoi. Pas seulement ça, mais tu vois, de rencontrer des gens extraordinaires. Ouais.
On fait la pause musicale et tu as choisi Kim Swan de faire entendre un extrait du troisième mouvement de la quatrième symphonie de Mahler. Ouais. Thank you. Vous écoutez Le Fil du Fer sur Radio FM+, et nous sommes en conversation avec Kim Søren Dresinski, qui est professeur de français et philosophie à l'École internationale des Nations Unies de New York. Alors, pour la musique, pourquoi est-ce que tu as choisi ce malheur ?
Alors, pour moi, malheur représente plus ou moins ce que moi j'ai vécu. Tu vois, il est entre l'ère classique et moderne. C'est un juif qui s'est converti en catholique. Par conséquent, il a le pied sur les deux mondes. Et moi, je me sens pareil, je me sens très en affinité avec lui. Et j'adore sa musique, mais spécialement la quatrième symphonie. Et surtout le troisième mouvement d'Adagio représente pour moi ce que je suis vraiment, c'est-à-dire ce tiraillement entre ce que j'étais et ce que je suis devenu. C'est comme Malheur qui était en même temps juif et en même temps devenu catholique du 19e siècle au 20e siècle. Et moi, je sentais ça, c'est-à-dire que il y a en moi, j'étais éduquée dans disons l'éducation française, mais je suis restée très très bien la mienne. La plupart de mes amis, tout ça, sont partis en France, donc ils sont dans un sens athées, captivés par la culture française, alors que moi j'ai toujours en moi ce côté bien à mien, mais en même temps je vis dans un monde américain que au début, j'aimais pas trop. La seule chose que j'aimais dans la culture américaine, c'est vraiment cette notion, ce mythe de liberté, de démocratie. Mais oui, tout ça, c'est pour moi, en novembre 2024, c'est vraiment, pour moi, c'est une perte définitive de cette innocence politique. Je ne parle plus de politique parce que c'est dur, quoi. Quand on perd, alors moi j'ai perdu en 2023 mes deux chiens que j'avais pendant 14 ans et demi. Après, la même année, j'ai perdu mon frère unique. Donc, dans un sens, je suis un peu plus ou moins coupée de ce que j'étais, c'est-à-dire bien la mienne, liée à mes parents. Et puis, en novembre 24, pour moi, c'est une perte de, je sais pas, de cette notion, de ce mythe de liberté, de démocratie. Et je me suis rendu compte que je ne vis, peut-être, les Américains n'aimeraient pas entendre ça, mais pour moi, c'est pas la perte du mythe de la démocratie.
Revenons-en plutôt à l'École internationale des Nations Unies. Alors, qu'est-ce que c'est que cette école ? Tu as connu 55 ans d'histoire. Alors, l'origine de cette école et qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui ? Voilà, qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette école ?
Donc, je crois que l'école, maintenant, a 75 ans. Quand je suis arrivée, c'était vers les années 20 ans de l'école. J'ai pas trop connu le début, mais j'ai connu quand même des gens qui étaient là pendant longtemps. Alors, cette école a été fondée par les parents qui travaillaient pour les Nations Unies. Alors, ils voulaient pas du tout avoir leurs enfants dans une école américaine. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une école dans l'idée, c'est d'avoir une éducation plus internationale, et comme ce sont des gens qui voyagent, qui travaillent pour les Nations Unies. Mais petit à petit, c'est devenu presque un berceau pour les futurs leaders du monde, parce que, et naturellement, tous ces enfants qui sont super privilégiés, qui sont venus des familles diplomatiques, tout ça. Et je me rappelle la première fois quand, dans une réunion, un des directeurs nous a dit: vous avez des enfants qui seront les futurs leaders. Donc pour nous, c'est pas seulement une chance, mais c'est une responsabilité. Et l'école, vraiment, je crois, la mission de l'école des Nations Unies à New York, c'est vraiment, ils y croient. Et maintenant, ça, c'est vraiment le, comment on dit ça, le credo de chez nous. Et moi-même, personnellement, je prends ça très au sérieux. Je pense que j'ai eu cette chance d'avoir cette influence, de pouvoir former l'esprit des jeunes. Et je me rappelle que je disais toujours à mes élèves de terminale, je dis d'ici quelques années, vous aurez peut-être à une table, vous allez discuter du destin, de la vie des gens sur qui vous avez des influences. N'oubliez pas ce que vous apprenez ici. Et je me suis rendu compte que c'est vrai, plusieurs, quand ils reviennent nous voir, ils y croient, vraiment. Et ce qui est intéressant dans cette école, c'est peut-être la seule école dans le monde. Nous avons, dans le programme, nous avons 8 langues. Donc, je travaille avec des profs qui sont venus de partout du monde. Mais vraiment, tu vois, des enseignants vraiment très bien formés. Il y a plusieurs Français, naturellement, parce que le français est une des langues de travail aux Nations Unies. Mais nous, on suit le programme qu'ils appellent IB, ça veut dire un baccalauréat international. Et avec ce diplôme, nos élèves peuvent aller à n'importe quelle université. Et donc, dans le programme, l'élève devrait connaître à la fin de leur cursus. C'est, je crois, il faut, alors, à part leur langue maternelle, 2 autres langues. Oui.
Donc, vraiment une école internationale.
Ouais.
Et pour toi, le métier de professeur, quel est l'essence? Parce qu'il y a une responsabilité, tu viens de le dire. Quel est le lien entre ta propre histoire, avant d'aller à New York et peut-être aussi pendant que tu es à New York, et l'enseignement, le fait d'être professeur?
Je me rappelle quand j'étais jeune, toute petite, on jouait ce qu'ils appellent jouer. Le mot en anglais, c'est to play house. Alors que je voulais toujours être prof. Je voulais toujours être la personne qui dit aux autres ce qu'il faut faire. Donc je crois ça fait partie de moi. Alors quand les gens me demandent pourquoi tu deviens prof, je dis ah, comme ça je peux dire aux autres ce qu'il faut faire. Et je crois le fait d'être fille au Vietnam, à l'époque où je suis née, donc la place de la femme, c'est pas très important si j'ai bien compris. Mais quand je commençais à enseigner, d'abord au Vietnam pendant quelques années, mais aux Nations Unies, je me suis rendu compte que vraiment, non seulement j'aime l'enseignement, mais j'aime vraiment l'idée de pouvoir communiquer ce que je savais aux jeunes, de leur faire aimer ce que moi j'aime. Je trouve que c'est incroyable. C'est peut-être le meilleur marchand d'idées qu'on puisse penser. Et maintenant, avec tous les progrès de la technologie, alors par exemple, j'utilise maintenant les moyens, les outils de l'intelligence artificielle pour enseigner. Je trouve c'est extraordinaire. J'aurais bien aimé être plus jeune pour pouvoir faire plus. Naturellement, j'ai eu la chance d'être aux États-Unis, donc on n'est pas forcé de partir à la retraite. Donc c'est pour ça que j'enseigne encore. Et puis je m'appelle un de mes amis qui était proviseur. En tout cas, il est maintenant à Paris, directeur de l'école internationale à Paris. Il m'a dit toujours, mais Kim Soon, tu es mon inspiration. Je lui dis, mais tu vois, je fais ce que j'aime, donc c'est pas difficile, tu vois. Et je me rappelle hier quand j'ai parlé à une jeune élève de l'école où enseigne Lionel, elle m'a dit, madame, comment vous faites pour que les élèves réussissent? Je dis, c'est très simple. Je leur communique mon amour pour les connaissances, pour les idées. Et tu sais, comme c'est gratuit, tout ça, c'est facile.
Ouais. Et alors transmettre les connaissances et les idées, parce que tu as été professeur, tu as dit donc que tu as fait une thèse sur Pascal.
Ouais.
Est-ce que tu as une forme de regret entre toutes les études que tu as faites et puis l'enseignement aujourd'hui, ou comment tu as été nourrie toi-même, tu avais nature. Donc, qu'est-ce qui a qui t'a nourrie?
Ben, je pense qu'il y a plusieurs choses, mais l'amour des connaissances, tu sais, que c'est facile. Tu as plein de bouquins, je lis dans plusieurs langues, donc c'est pas difficile, mais je crois ce qui me nourrit surtout, c'est de comprendre que, tu sais, c'est peut-être très asiatique de penser de cette façon, c'est qu'on se fait son propre destin. Je suis devenue ce que je suis, c'est parce que j'avais des rêves. Je pensais même, quand j'étais au Vietnam, je pensais que il y a des contraintes sociales, mais peut-être un jour ou l'autre, je pourrais peut-être réaliser mes rêves, mes idées. Je lis beaucoup, j'adore lire, j'aime la musique, donc la musique, c'est encore autre chose qui m'aide à voir les choses plus claires. La philosophie, naturellement, tu vois. Alors que je crois le fait de choisir un sujet de thèse comme le concept de l'angoisse, c'est-à-dire je veux peut-être
chez Pascal,
mais c'est pas seulement chez Pascal. Si tu vois bien Kierkegaard, regarde, ou encore Camus, tous les idées de l'existentialisme, c'est ça. C'est comment vivre d'une certaine façon pour pouvoir se réaliser. Parce que le terme même se réaliser, ça veut dire soi-même, c'est nous qui définissons notre destin, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc pour moi, dans ce sens-là, c'est assez facile de voir maintenant un regard vers le passé. J'ai eu la chance d'avoir toutes ces opportunités pour me réaliser, mais c'est-à-dire il y a d'autres personnes peut-être qui avaient aussi les mêmes opportunités. Donc pour moi, tu me demandes ce qui me nourrit. Ben, ce qui me nourrit, c'est de ce sens de penser que mon bonheur, mon destin, j'ai eu quelque chose à faire avec. C'est-à-dire il y a des choses, ma mère a toujours dit ça, il y a des choses que tu peux contrôler, des choses dont tu n'as aucun contrôle. Donc ce que je peux contrôler, je le fais. Les choses dont je n'ai pas le contrôle, j'apprends à vivre avec. Je trouve des moyens pour réaliser. Mais pour moi, tu me demandes toujours, comment tu as fait ça? Je pense toujours à l'expression française, se réaliser. Et je crois, nous, on a quand même un certain contrôle sur notre vie. Peut-être qu'il y a des gens qui n'y croient pas, mais moi, j'y crois. Oui.
Et ton regard sur les jeunes femmes et les jeunes filles que tu as en face de toi, à l'école, quel est ce regard en pensant à toi, à ton parcours?
Non, tu vois, pour moi, surtout aux États-Unis, mes élèves, tu vois, femelles, les filles n'ont pas du tout ce problème parce que elles sont tellement libres, elles ont tellement d'opportunités. Mais je m'appelle Rania, c'est ça qu'elle s'appelle hier. Elle m'a demandé la même chose. Je dis, écoute, il ne faut pas avoir peur de penser. Il ne faut pas avoir peur d'exprimer ses idées. Peut-être la seule chose qu'il faut apprendre, c'est apprendre comment bien t'exprimer pour convaincre, pour faire comprendre à l'autre que tes idées sont vraiment à toi et que tu as droit à ces idées. Et je crois que c'est ça que j'essaie d'inculquer chez mes élèves, que ce soit garçon ou fille, parce qu'on se réalise. Je sais pas, peut-être à l'âge où je suis là, je peux dire ça, c'est facile parce que j'ai vécu quand même ma vie. Je vis encore, et puis je sais pas combien d'années que je vais encore vivre, mais j'y crois fermement à ça. Donc aux jeunes, je leur dis ça. Il faut pas avoir peur des idées. Il faut pas avoir peur de dire ce qu'on pense. Mais comment convaincre les autres à respecter tes idées, à peut-être à comprendre que c'est important pour toi.
Hein? Qu'est-ce qui a changé à toi, en toi, avec ton parcours à l'école internationale des Nations Unies, ton rapport aux autres, ton rapport au monde, ton rapport aux animaux? Je sais que toutes ces questions-là sont très importantes. Est-ce qu'il y a aussi un apport de l'école des Nations Unies dans ton regard sur le monde et sur les gens, la nature, etc.?
Je pense que le fait d'être à l'école des Nations Unies et d'avoir des rapports, rester, tu vois, comme ils disent aux États-Unis, c'est shrug your shoulders, c'est-à-dire de côtoyer tant de gens différents et d'avoir des opportunités comme j'ai et comme j'avais, ça fait de moi la femme que je suis devenue. Alors, je crois fermement à ceci, c'est que les idées sont importantes, que je devrais pas et que je ne dois pas, même encore maintenant, les autres ont les mêmes droits que moi, c'est-à-dire les droits de leurs idées, de leur propre personne. À l'école, par exemple, j'ai une amie qui est d'origine, on appelle ça, africaine, américaine. Je ne vois pas de différence. Et j'élève mon fils de la même façon. C'est que je regarde pas les gens d'une façon différente que je me regarde moi-même. Hein? Et je crois le fait d'être prof, j'ai appris par mon amie Sylvia Gordon, c'est j'essaie de penser comme ça. C'est-à-dire que je sais écouter les autres. Et je crois que c'est pour ça que les gens aiment bien me raconter leur vie. Je suis devenue confidente pour cette raison. Donc, ce que l'UNIS m'a apporté, c'est de peut-être cette notion que je suis comme les autres. Et les autres, c'est comme moi. D'ailleurs, ça me fait penser à Victor Hugo qui dit n'oublie pas que je suis comme toi et toi, je suis comme moi. Ou encore, je pense au peintre de la Renaissance, c'est Masaccio. Donc, tu vois, sur la tablette, il dit, alors, regarde, j'étais comme toi et un jour tu serais comme moi. C'était une sorte de squelette. Donc, c'est ça que je vois les choses. C'est-à-dire, nous sommes tous pareils. C'est peut-être trop idéaliste, peut-être puéril, peut-être pour certaines personnes de penser comme je pense, comme ça, comment je pense, mais j'y crois fermement. Alors donc là, c'est la raison pour laquelle je suis peut-être devenue très très optimiste, même en ce moment avec ce que je vois dans le pays où je suis, c'est les États-Unis, quoi. Ouais.
Bien, merci Kim Swan, nous arrivons, nous sommes déjà à la fin. Je te remercie pour cette conversation et j'espère vraiment que nous en aurons d'autres. C'était donc ton fil du fer, le fil du fer de Kim Swan Brzezinski, et un salut donc, puisque nous connaissons des gens à l'école internationale de l'ONU à New York. Salut à eux. Merci Kim Swan.
C'est moi plutôt que te remercie, qui te remercie, oui. Et puis à une autre fois.
À une autre fois.